Donc hier on avait parlé du ciel, à la fois le ciel eschatologique de la fin des temps, donc de la fin des temps, de la résurrection, et en même temps le ciel que pénètrent les âmes des saints et des âmes des autres défunts qui sont totalement purifiées. Donc le ciel aujourd'hui. Aujourd'hui je voudrais revenir sur un élément quand même important qui est ce que j'appelle le temps intermédiaire, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe entre notre mort et la fin des temps. Quel est le statut de l'âme au-delà de la mort? Donc on va parler un petit peu du traité de l'anima separata, de l'âme séparée du corps. C'est une question quand même importante, qui a des fondements en philosophie, mais à laquelle la foi aussi a apporté quelques réponses. C'est d'autant plus important que c'est quelque chose qui est un petit peu battu en brèche aujourd'hui dans notre monde contemporain. Voilà, on observe ça depuis le 19e siècle. Des théologiens, alors d'influence protestante, influencés par la culture philosophique, si vous voulez, ont dit que l'âme séparée du corps au-delà de la mort n'était pas quelque chose de biblique, et que la vision biblique de l'être humain était une vision très unifiée de la personne humaine. Et on le sait très bien que même le mot « chair » dans la Bible, même dans le Nouveau Testament, désigne tout l'être humain, et pas seulement sa dimension corporelle. Au XIXe siècle, à partir d'une réflexion sur Luther, on a commencé à rejeter ce qu'on a appelé le dualisme corps-âme, le dualisme dit platonicien de Platon, des philosophes, en disant que l'idée d'une âme qui puisse se séparer du corps, ça vient de la philosophie grecque et ça ne vient pas de la Bible. Et donc, selon ces théologiens, quand l'homme meurt, tout meurt, aussi bien le corps et aussi bien l'âme. Il n'y a rien de l'homme qui subsisterait au-delà de la mort. Donc pour ces théologiens, il ne faudrait pas parler de l'immortalité de l'âme, mais on parlerait plutôt de la résurrection de l'homme tout entier. Et à la résurrection, tout ressuscite, l'âme comme le corps. Voilà. Ce qui donne comme espérance pour nous, ici-bas sur Terre, qu'au-delà de notre mort, il n'y a rien, et qu'il faudrait attendre la fin des temps pour qu'il y ait quelque chose de nous qui ressurgisse. Ça supprime toute la possibilité que nous avons ici-bas sur Terre de faire ce que nous faisons tous les jours. Nous prions pour nos défunts. Depuis 2000 ans, l'Église prie pour les défunts. Dire que quand quelqu'un est mort, il ne reste plus rien de lui, ni corps, ni âme, ça rend complètement obsolète et ridicule la possibilité que nous avons de prier pour nos défunts. Donc on voit tout de suite qu'il y a un problème et que ce n'est pas du tout dans l'ordre de notre foi, de notre prière, dans la tradition de l'Église. Enfin, on a toujours y pensé que notre âme, quelque chose de nous, subsistait au-delà de la mort. Ceci dit, le malaise s'est quand même bien installé pendant tout le XXe siècle. Et quand vous regardez les nouveaux livres liturgiques, donc qui datent de la réforme liturgique de 1969-1970, le mot « âme » est quasiment disparu par rapport aux livres anciens où on parlait énormément de l'âme. Tout simplement, à la messe, le prêtre, quand il se communie, aujourd'hui nous disons que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Autrefois, on disait que le corps du Christ garde mon âme pour la vie éternelle. Donc le mot âme qui était très présent dans beaucoup d'endroits dans la liturgie, et même aussi dans la liturgie des défunts, a été quasiment enlevé. Depuis la réforme liturgique de 1969. Voilà. Oui, c'est depuis Vatican II. Et j'aime pas l'expression « depuis Vatican II », ça a l'air de dire que Vatican II a été un tournant. Non, le tournant, il s'est opéré à la fin du XIXe siècle par des théologiens d'influence protestante. Voilà. Mais c'est vrai que le nouveau missel de 70 ne parle que peu de l'âme. Mais bon, c'est pour d'autres... C'est un symptôme, quoi, voilà. Cette idée que l'homme est parfaitement unifié a rejoint aussi l'expérience des sciences modernes, expérimentales, où évidemment on était complètement axé sur le matérialisme. Les médecins ne reconnaissent dans l'homme que sa matière, sa biologie, etc. Mais comme ils le disent, au bout du scalpel, je n'ai pas vu l'âme. Cette idée d'une personne humaine parfaitement unifiée dans son corps et que l'homme se réduit totalement à son corps, a rejoint cette hypothèse des théologiens disant qu'il ne pouvait pas y avoir d'âme.